mode, savez-vous planter les choux à la mode de chez nous.
Vous êtes bien sur Dicotylédonde, l'émission qui parle de plantes et de nos liens au végétal.
Yeah.
Ce qu'on est bien dans ce jardin, loin des engins. Pas besoin de choux pour être bien, pas besoin de vin pour être chou.
Dit cotylédon, on entend le mot deux et cotylédon. Donc ce sont des plantes qui font des graines avec deux cotylédons.
Dit cotylédon, une émission d'ethnobotanique fabriquée par Clémence, Nina et leurs complices.
Dernière chose à dire, qui permet de reconnaître les dicotylédones. Les dicotylédones, elles ont des nervures qui sont ramifiées. Les fleurs, on les verra une prochaine fois parce qu'on n'a pas de fleurs pour le moment sur le framboisier.
Tous les quatrièmes mardis du mois sur Radio Galère 88.4. Bonjour à vous, chers auditeurs, chères auditrices. Aujourd'hui, Dicotylédonde fête ses 6 mois. Depuis le mois de janvier, elle a, en vrac, fait ses premiers pas à la montagne, a commencé à déconstruire le rapport genré qu'on entretient au végétal, a ouvert grand ses oreilles à l'écoute du son des plantes, a questionné son paysage et est allée se promener dans les hautes Alpes bleues de lavande. Elle a rencontré des personnes incroyables, toujours partantes pour venir s'essayer à la parole radiophonique, et elle continue.
Grâce à Fabienne, rencontrée d'abord dans la ruelle d'un village du Dévoluy, puis retrouvée dans la salle de cours du diplôme d'ethnobotanique de Grenoble et interviewé dans cette émission au mois d'avril, Dicotylédonde a fait la une de la newsletter de l'AFC, l'Association française des professionnels de la cueillette.
C'est comme ça qu'Alice a eu vent de nous et qu'elle nous a contactés. Elle ne pensait peut-être pas faire aussi vite partie de l'aventure, mais puisque nous avions très envie d'imaginer une rencontre autour des plantes et du soin, et qu'Alice est, entre autres, herboriste et phytothérapeute, en plus marseillaise, on a bu un café avec elle ce matin, et nous voilà ni une ni deux sur une table à l'ombre de la friche pour enregistrer cette émission du mois de juin.
Notre nouveau défi à Dicoty, c'est maintenant de préparer ces émissions en un temps record. Et on est absolument ravis qu'Alice ait accepté de relever le défi. Merci Alice et bienvenue.
Alice, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu peux commencer par te présenter ?
Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Alice Mascarel, je suis praticienne en herboristerie. Je propose des séances rendez-vous conseils, faire du conseil santé avec les plantes médicinales, les formes traditionnelles d'herboristerie, et je fais des balades botaniques et des ateliers découvertes de l'herboristerie pour transmettre mes connaissances et les partager.
Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, peut-être plus en détail, qu'est-ce que c'est exactement que l'herboristerie ?
Oui, alors l'herboristerie, c'est donc en France, c'est le conseil. En France, l'herboristerie, c'est la vente de plantes derrière un comptoir. La vente de plantes qui s'accompagne du conseil pour les vendre. Donc, on vend des plantes séchées, des tisanes, des huiles essentielles, des hydrolats et puis des compléments alimentaires. Un peu de cosmétiques, puisqu'il y a des choses qui se mettent sur la peau, comme les huiles végétales ou les huiles essentielles.
Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'évolution des conditions d'exercice de ce métier-là, en particulier en France ?
Oui, alors, ça fait longtemps. Que j'ai lu, ça, en gros, mes références bibliographiques, au plus ancien, elles s'arrêtent à la Révolution française. Mais en gros, le métier d'herboriste était très disparate. Donc il y avait aussi bien des vendeurs ambulants qui vendaient des herbes sèches. Il y avait des droguistes ou autres épiciers qui vendaient plein de choses, dont des herbes sèches. Et puis il y avait des personnes qui vendaient des plantes séchées, des tisanes et tout ce qu'on pouvait considérer un peu en parallèle des médicaments. Et à cette période-là, ça fait un moment, les pharmaciens, l'ordre des pharmaciens, étaient déjà un peu mécontents qu'il y ait des gens qui les concurrencent eux. Et au fur et à mesure du 19e et du 20e siècle, il y a des formations qui se sont un peu instaurées et il y a des gens qui passaient un certificat d'herboriste, donc qui validaient les connaissances qu'ils avaient. Mais c'était une formation qui était privée et qui n'avait pas forcément de reconnaissance d'État, mais qui était tolérée, on va dire. Et les pharmaciens, à force de gratter pour garder leur monopole, ont fini par avoir gain de cause sous le régime de Vichy. Donc en 1941, il y a une loi qui a été votée pour interdire le métier d'herboriste. Donc les derniers ayant été diplômés et qui pratiquaient ont pu continuer d'exercer leur métier. Mais il n'y a pas eu de nouveau. Donc au passage, il y a énormément... Les plantes séchées sont passées sous monopole pharmaceutique. Donc il n'y avait aucune plante en vente libre. Donc il y avait forcément des gens qui en vendaient, mais parce que le contrôle n'était pas si simple. Mais du coup, il y avait très peu de ventes. Je crois peut-être 7 plantes en vente libre juste dans les années 70. Après, peu à peu... puisque dans les années 90, le nombre a augmenté. Aujourd'hui, il y a à peu près 148 plantes qui sont autorisées à la vente. Donc, c'est des plantes séchées autorisées à la vente en dehors d'une pharmacie. Mais donc, par exemple, il y a des plantes qu'on va trouver en herboristerie, comme la graine de fenouil, et d'autres qu'on va trouver... qu'on est censé trouver qu'en pharmacie, comme la feuille d'artichaut, le millepertuis, le plantain, qui sont des plantes médicinales un peu incontournables, mais qu'on n'a pas le droit de retrouver ailleurs. Les herboristes diplômés ont continué d'exercer jusque dans les années 90, où ils sont tous partis à la retraite, progressivement. Les herboristeries ont fermé. Mais ça a continué un peu de perdurer, et notamment avec des pharmaciens qui ont ouvert des herboristeries ou qui ont repris des herboristeries principalement un peu partout en France, mais c'est quand même c'était quelque chose d'assez confidentiel. Et puis depuis quelques années, on a un retour de l'intérêt pour l'herboristerie, donc on a des personnes qui se forment et qui commencent à en faire un métier. Donc c'est revenu notamment dans les années 80 où il y a des producteurs de plantes médicinales qui ont commencé à s'organiser, donc notamment avec le syndicat des simples, et à valoriser aussi leurs connaissances. Et donc jusqu'à c'était novembre 2022, je crois, le diplôme de paysan herboriste qui a été autorisé et qui a eu son titre RNCP. Donc aujourd'hui, on a une formation de paysan herboriste. C'est-à-dire que c'est une formation d'agriculteur avec un peu des cours d'herboristerie qui font que le producteur de plantes médicinales peut accompagner la vente de ses produits par un conseil. Ça a commencé par eux, par les producteurs. Mais il y a eu un renouveau des formations d'herboristerie. Donc un renouveau des formations en herboristerie, donc l'intérêt croissant du public. Et aujourd'hui, des personnes formées qui ont fait soit des écoles d'herboristerie, soit des DU de phytoaromathérapie à la fac qui ouvrent des herboristeries. Donc on a des personnes qui sont plus seulement des pharmaciens ou des pharmaciennes qui ouvrent des herboristeries, ou qui les reprennent, mais des personnes qui viennent pas du tout du monde des professions de santé. Quoi.
Officiellement, les herboristes ne vendent pas des plantes qui soignent.
Alors, le métier d'herboriste est interdit. On peut ouvrir un magasin qui vend 148 plantes séchées qui sont hors monopole pharmaceutique, dans un magasin, n'importe lequel, qui peut s'appeler herboristerie ou pas herboristerie. On peut ouvrir un magasin qui vend du CBD ou n'importe quoi d'autre et qui s'appelle herboristerie. Juste, on n'a pas le droit de s'appeler herboriste. Voilà, et voilà, dans les plantes séchées, il y a ces 148. Et puis après, on a le droit de vendre aussi, d'ouvrir un magasin qui vend des compléments alimentaires. Et là, il y a à peu près 500 plantes transformées en compléments alimentaires qui ont ce statut-là, qui sont autorisées à la vente. Donc là, les compléments alimentaires, on en trouve partout. Hein, magasin bio, parapharmacie, mais n'importe qui peut vendre des compléments alimentaires. Du moment qu'ils ne sont pas accompagnés de conseils spécifiques. Voilà, il y a aussi tout un truc avec les allégations de santé. Mais voilà, du coup, effectivement, normalement, la personne qui vend les plantes n'a pas le droit de faire un conseil, à moins d'émettre des références bibliographiques. Donc, par exemple, on sait que... Par exemple, le fenouil, il est certifié par tel organisme, donc c'est l'EMA, je crois, organisme européen, qui a fait une liste un peu des plantes médicinales traditionnelles et de leurs usages traditionnels. Donc on sait que le fenouil peut accompagner des problèmes de digestion. Et ça, on peut le dire. Mais on n'a pas le droit de dire « vous avez des ballonnements, prenez du fenouil ».
Ah ouais, c'est quand même toujours rester sur une ligne de crête. Ouais. Ça doit pas être évident.
Non, effectivement, c'est pas très évident. Après, dans la pratique, on navigue vraiment entre les gouttes aujourd'hui, quoi. Donc, on essaye de faire attention. Alors, d'autant plus aujourd'hui que le monde de la pharmacie, c'est un peu, comment dire. Il y a des grosses pharmacies qui vendent plein de pharmacies et qui tirent sur les prix et qui font concurrence à plein de petites pharmacies. Donc il y a beaucoup de petites pharmacies qui ferment. Ils n'arrivent pas trop à faire leurs chiffres qu'avec des médicaments. Et vu qu'ils ne sont pas formés à faire du conseil complémentaire, du coup, ils ne s'en sortent pas trop. Et du coup, on a eu un article il y a quelques semaines là, dans le quotidien des pharmaciens donc qui est titré qu'en gros les herboristeries marchent sur les plates-bandes de la pharmacie et donc qui insiste à être vigilant aux herboristeries qui vendraient des plantes sous monopole pharmaceutique et qui incite les pharmaciens à se former à la phytothérapie pour pouvoir vendre du complément alimentaire et faire plus de chiffres. C'est vrai qu'aujourd'hui les pharmacies voient leurs chiffres augmenter si ils ont du conseil complémentaire et notamment avec les compléments, quoi.
Et justement, la phytothérapie, dans ce monde-là de la naturopathie, ça veut dire quoi ?
Donc la définition de phytothérapie, donc, en grec, c'est le soin par les plantes médicinales, par les plantes. Donc extension, on dit plantes médicinales pour désigner toutes ces plantes qu'on utilise au quotidien pour... avec des vertus, par opposition à plantes sauvages ou plantes horticoles ou autres. On utilise, la phytothérapie, c'est le fait d'utiliser cette catégorie de plantes pour proposer du soin. La naturopathie, c'est une vision de la santé un peu globale ou avec... Le naturopathe, il utilise différents outils pour proposer du soin. Donc, il va utiliser la réflexologie plantaire, la phytothérapie, l'aromathérapie, les fleurs de Bach. Oui, il utilise aussi des outils un peu de diagnostic, entre guillemets, comme l'iridologie. Il va faire tout ce qui est... comment ça s'appelle ? Les trucs d'homéopathie. Les diathèses.
Qu'est-ce que c'est ?
La diathèse en homéopathie, en gros, c'est observer la personne et ce qu'on va dire son physique, son type de physique et classer les gens selon leur tempérament. Donc ça peut être bileux, d'autres. Et donc qui permet un peu d'orienter ses choix thérapeutiques vers des choses en fonction de ça, quoi, du profil de la personne.
Ouais.
La naturopathie, elle se veut un peu un équivalent de la médecine traditionnelle chinoise ou de l'Ayurveda. Et voilà, avec des outils européens. On va dire que la naturopathie a quand même moins d'expérience que l'Ayurveda ou la médecine traditionnelle chinoise. Donc il y a ça. L'herboriste utilise la phytothérapie et le naturopathe aussi.
Ok. On entend aussi régulièrement un autre terme qui est herbaliste.
Oui.
Et est-ce que, pareil, dans la même veine, tu peux nous aider à définir ce terme?
Oui, alors... Un herbaliste, donc c'est un mot qui désigne, donc c'est un mot anglo-saxon qui désigne une personne qui cueille, transforme et conseille. Donc dans les pays anglo-saxons, donc que ce soit au Royaume-Uni ou en Amérique du Nord, on a donc ces praticiens-là qui cueillent, transforment et conseillent. Moi je me considère comme herbaliste parce que je cueille, je transforme et je conseille. Mais on n'a pas, c'est pas un métier qui existe en France. Mais les paysans herboristes, on va dire, se rapprochent de ça. Et puis après, on a, enfin, plus ou moins, on va dire, hein, parce que l'herbaliste fait des consultations. Il a droit de faire des diagnostics aussi.
Ce qui n'est pas le cas, oui, du paysan qui
sculpte. Voilà. Alors moi non plus, hein, je ne fais pas de diagnostic, hein, je me réfère toujours au monde médical et je renvoie toujours vers les médecins quand il n'y a pas de diagnostic. Donc je renvoie toujours vers les professions de santé. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui en France, on est les dernières personnes à être formées en herboristerie. Depuis ces dernières années, on est beaucoup à accueillir, à transformer et à conseiller, et du coup à être des herbalistes, plus ou moins, quoi.
Donc c'est un terme qui prend de l'essor en France, même si il n'est pas forcément reconnu par le système français.
Oui.
Enfin, je veux dire, c'est quelque chose dont les gens s'emparent. Oui, s'emparent, pardon.
Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est des pratiques qui sont super intéressantes parce qu'en tout cas, quand on fait du conseil derrière un comptoir, on peut être complètement déconnecté de la plante. Et aujourd'hui, là, en gros, le mouvement... général des praticiens en herboristerie, qui est le nom officiel qu'on s'est donné depuis quelques années. Nous, on tend à avoir une pratique, on va dire, éthique, qui nous rapproche du végétal, avec une conscience de la cueillette durable, donc préservation des ressources, et puis aussi que la qualité de la plante est super importante pour, en fait, quand on propose des plantes médicinales et qu'on veut faire du conseil santé ou bien-être.
Et justement, si par exemple moi je vais demain dans une pharmacie, ils peuvent me donner une plante comme en tant que médicament. Mais est-ce que tu pourrais nous retracer quel aurait été le parcours de cette plante? Comment une plante se retrouve en pharmacie? Comment une plante séchée peut se retrouver comme médicament en pharmacie? Elle pousse où? Elle est cueillie par qui? Elle est distribuée comment?
Alors, en pharmacie, donc, le statut des plantes séchées qu'on va trouver, c'est donc un statut de médicament. Il existe quelques grossistes qui sont aussi des laboratoires pharmaceutiques et qui valident ce statut-là. En général, c'est des plantes qui sont cueillies en gros et dans des pays où la main-d'œuvre est beaucoup moins chère. Donc ça va être beaucoup les pays de l'Est, hein, qui sont des gros, gros, gros producteurs de plantes médicinales. Dans les pays de l'Est, on va trouver quasiment toutes les plantes qu'on trouve ici, mais avec des tarifs, inégalables. Soit c'est récolté à la main, soit par des machines. Ensuite, c'est séché. Alors, je ne sais pas exactement comment c'est séché, mais ce que j'ai pu voir chez des personnes qui font vraiment des grosses quantités en France, c'est séché dans des containers ventilés. Donc, c'est séchage ultra rapide. Et après, soit avant, soit, non, je pense que c'est après. Après, les plantes sont hachées pour pouvoir être stockées de manière plus, enfin, à ce qu'elles prennent moins de place. Donc, il y a des plantes qui sont pas hachées parce qu'on va, on veut avoir la qualité, par exemple, non hachée. Donc, sur la verveine odorante, on peut avoir la brisure en qualité herboristerie ou on peut avoir la feuille entière. Mais la plupart des plantes sont en brisure, justement, donc en petits morceaux. Ensuite, la plante, elle passe par tout un processus pour la conservation. Donc, elle va passer dans des gros frigos pour pouvoir tuer toutes les petites bestioles qui pourraient les envahir, comme les petits charançons ou les mites, qui sont quand même les plus grands ennemis des herboristes, qu'ils soient pharmaciens ou petits producteurs. Et du coup, y a ça. Et puis après, il va y avoir toute une validation, un processus de validation, donc ce qu'on appelle le bulletin d'analyse, qui va permettre de valider la quantité de métaux lourds, s'il y a des parasites, la quantité de principes actifs sur certaines plantes, par exemple le ginseng, les ginsegosines, donc qui sont une partie des principes actifs intéressants. Voilà, quoi d'autre ici, la quantité de pesticides aussi est mesurée. Voilà, après, je ne sais pas exactement quels sont les taux qui sont OK ou non. Du coup, le produit qui est vendu en pharmacie et qui est une plante médicinale aura toujours ce bulletin d'analyse qui en fait un produit pharmaceutique.
Donc, le statut de qualité pharmaceutique, il assure que ces contrôles qualité aient été faits.
Oui.
Et du coup, on dispose d'une plante qui répond, en tout cas, qui se place en dessous des normes et des seuils qui sont jugés dangereux pour la santé.
Oui, tout à fait. Par contre, donc, il n'y a pas de critères organoleptiques, donc que nous, en tant que praticiens en herboristerie ou paysans herboristes, auxquels on est vraiment beaucoup attachés, c'est-à-dire que la plante est belle, par exemple une feuille comme la feuille de mélisse, elle est verte, elle est entière, elle sent, et donc ces critères-là, ou le goût hein, aussi, quand on fait la tisane, ces critères-là ne viennent pas du tout, sont pas du tout pris en compte pour les produits pharmaceutiques.
Ok. Et est-ce que, selon toi, il joue un rôle dans les propriétés actives de la plante? Parce que, enfin, je veux dire, quand on parle de cuisine, on peut nous dire que la nutrition, elle commence déjà par regarder un aliment qui va nous faire saliver. Enfin, tu vois, le rapport sensible qu'on peut avoir à ces éléments-là. Est-ce que, toi, ça rentre en ligne de compte dans un processus thérapeutique, le fait qu'elle voit une plante belle, enfin, voilà.
Et ben, quand on s'intéresse à la chimie des plantes, donc il y a différents types de principes actifs. Donc, il va y avoir les odeurs qui sont les huiles essentielles. Il va y avoir les couleurs comme le rouge, le jaune, le bleu qui sont des principes actifs anti-inflammatoires, antioxydants. Le vert aussi. Quand on sait ça, on peut pas penser qu'une plante qui n'a ni odeur ni couleur peut avoir des principes actifs en fait. Par exemple, pour avoir goûté des plantes de pharmacie et avoir cette saveur en fait de poussière goûter les plantes que moi je cultive, enfin que j'ai cueillies ou que des collègues paysans herboristes cultivent, qui sont incroyables, instinctivement, moi je me dis non, c'est pas possible. Alors, une plante tout hachée, jaune, qui a ni odeur ni couleur, pour moi, ce sera pas efficace.
Il y a un côté de brouillage de piste aussi. Enfin, le fait qu'en tant qu'usager, on ne puisse pas nécessairement reconnaître les feuilles. Je trouve que ça met une distance aussi sur le produit qu'on consomme. Et du coup, enfin, on ne peut pas identifier le végétal qu'on infuse ou qu'on met sur notre peau, si c'est un macérat ou une huile végétale. Enfin, je sais pas quel est ton avis là-dessus, mais je trouve que enfin, en termes de rapport à l'élément végétal, il y a une cassure, quoi. Enfin...
Ouais. Bah, c'est vrai. Et ça, je pense que c'est justement sur ça qu'on a envie d'avancer, tout le mouvement qu'il y a aujourd'hui. Donc, les paysans herboristes, les praticiens en herboristerie, mais aussi l'Association des herboristes de France, c'est justement recréer ce lien entre l'humain et le végétal, et du coup, avec notamment en travaillant sur la qualité des plantes et leur provenance et la manière dont elles ont été cueillies. C'est clair que même il y a des huiles de millepertuis qu'on va trouver dans le commerce qui sont allées vaguement orangées, alors que quand on fait nous notre macérat, moi quand je fais mon macérat de millepertuis, il est rouge sang. Il a une odeur incroyable de millepertuis. Là, je me sens reliée directement à la plante, quoi. Et donc, c'est vrai que il y a des gens qui travaillent en herboristerie, qui ont travaillé en herboristerie, qui savaient pas du tout à quoi ressemblaient les plantes qu'ils ou elles vendaient. Et du coup, ça semble un peu une chose plus ou moins aberrante, quoi.
Et pour toi, c'est quoi les conditions idéales de cueillette d'une plante à usage thérapeutique ?
Alors, il faut qu'elle soit cueillie à la bonne saison. Donc, par exemple, le romarin. le romarin, il fleurit. Donc, nous, on est à Marseille. On a du romarin partout autour de nous. C'est une plante de la garrigue. Il fleurit deux fois dans l'année. Il fleurit au printemps et à l'automne. Et après la floraison, il fait des nouvelles pousses. Et le romarin, donc, il contient beaucoup d'huiles essentielles. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est entre autres les huiles essentielles. Donc, on ne le cueille pas quand il est en fleurs, déjà. Parce que si on fait sécher les fleurs, elles vont noircir. Et donc, ça n'a pas trop d'intérêt. Et donc là, après le printemps, il a fait plein de nouvelles pousses. Et donc, elles sont toutes tendres. Et donc, on ne le cueille pas non plus à ce moment-là. On va le cueillir quand, une fois que la feuille a bien commencé à s'est bien chargée en principe actif. Et là, ça va être en ce moment à peu près. Et puis essayer de trouver la bonne fenêtre avant qu'il commence à cramer, parce qu'il fait très chaud en ce moment, les étés. Donc là, au mois de juin, c'est le moment idéal, trouver un coin où il n'a pas trop souffert. Il y a quand même des endroits en ce moment à l'étoile où il est tout jaune déjà. Mais il y a plein de plantes, par exemple toutes les feuilles des arbres, on va les cueillir après fructification. Donc pareil, ça va être à peu près en ce moment, ou pendant l'été. Parce que la plante, elle va concentrer un peu tous ses toute son énergie à fabriquer la fleur et le fruit. Donc si on veut cueillir une feuille, on va la cueillir en dehors de ces moments-là. Si on veut cueillir la fleur, l'idéal, c'est avant pollinisation. Donc par exemple, là, le tilleul, il s'ouvre. Pendant 3-4 jours, les abeilles et tous les insectes vont se ruer dessus. Et au bout de 4-5 jours, il sera déjà en fruit. Donc on a une fenêtre pour la cueillette qui est très... c'est 2-3 jours, quoi. Il faut les surveiller, les tilleuls. Et c'est pareil pour l'aubépine, la fleur d'aubépine. On a un marqueur sur la fleur d'aubépine, c'est les étamines. Quand elles ne sont pas pollinisées, elles sont roses. Une fois qu'elles sont pollinisées, elles sont noires. Donc là, on arrête de cueillir, du coup, parce que sinon les fleurs, elles vont partir en morceaux, les pétales vont s'échapper. Donc on est, ça dure quelques jours pour être là au bon moment. C'est tout un exercice d'observation. Donc il y a ça. Pour la cueillette aussi, on va essayer de trouver un spot où on a le droit de cueillir. Déjà, par exemple, dans le parc des Calanques, on n'a pas le droit. Où la plante qu'on cherche, elle est en grande quantité. Et on va essayer de prélever une petite partie de la plante, à savoir qu'aussi il y a des méthodes, par exemple le romarin. Lui, il peut être taillé sans problème, c'est pas trop gênant. Il y a des plantes comme le thym ou la lavande, si on coupe le bois, ça repousse pas, quoi. Donc on va essayer de se renseigner avant sur quelle partie il nous faut. et du coup le couper de la bonne manière. Par exemple, il y a des gens qui se promènent et qui arrachent le temps, là c'est mort, il va jamais repousser. Bon, pour l'instant on n'en manque pas trop, mais c'est vrai qu'avec le réchauffement climatique, les étés brûlants qu'on a là, depuis quelques années, on essaye de faire attention et de préserver le végétal.
Ça me semble une dimension importante quand on parle de planter soin. C'est à la fois parler des plantes qui soignent et à la fois de comment nous, on prend soin du végétal qui par ailleurs peut nous soigner. Et du coup, je ne sais pas comment toi, tu arrives à transmettre ça, notamment dans ta pratique de balade. Est-ce que c'est un endroit pour toi de faire passer ces enjeux aux gens qui viennent cueillir avec toi?
Oui, tout à fait. Donc moi, quand je fais des balades découvertes des plantes, donc je signale bien que je suis pas botaniste et que je suis herboriste et que j'essaye de transmettre au maximum la sensibilité au végétal en touchant, en sentant, en expliquant les organes de la plante, comment elle se reproduit, comment elle se nourrit. Et du coup, s'il y a des personnes qui sont intéressées par la cueillette, expliquer un peu toutes ces petites choses sur comment cueillir telle ou telle plante, selon les plantes qu'on te croise, donc le thym, le romarin, la feuille d'olivier, ça c'est des choses qui sont assez simples et qu'on trouve en quantité dans notre région. Donc si les gens peuvent un peu se faire leur petite pharmacie familiale, herboristerie familiale, qui peuvent le faire dans des bonnes conditions, c'est l'idéal.
Et est-ce que tu peux nous dire brièvement, par exemple, sur ces trois plantes un peu emblématiques qu'on trouve dans la région marseillaise, les vertus un peu thérapeutiques qu'elles ont?
Oui, le thym... Donc la partie médicinale, c'est la feuille. Donc quand on parle d'une plante médicinale, on désigne toujours sa partie parce qu'il y a parfois des plantes qui ont différentes parties médicinales comme la racine de pissenlit et la feuille de pissenlit. Donc le thym, ça peut être la feuille ou alors la sommité fleurie. Donc ce qu'on appelle la sommité fleurie, c'est la partie aérienne la plus haute avec les fleurs. Donc le thym, il fait une espèce de petite boule de fleurs et avec quelques feuilles. Donc on ramasse vraiment en haut, quoi. Si on veut que la feuille, on va donc le cueillir quand il est qu'en feuille. Ensuite, on va ce qu'on appelle l'émonder. Donc c'est-à-dire qu'on enlève les parties inutiles, donc le bois, et on récupère que les feuilles. Et donc ses propriétés médicinales, c'est un grand anti-infectieux. Donc on va l'utiliser aussi bien pour les voies respiratoires, digestives ou infections urinaires. Il a des propriétés digestives de manière générale, donc c'est bien de l'utiliser. On peut boire une tasse de thym si on n'a rien d'autre sous la main après un bon repas par exemple. Et si on veut l'utiliser sur par exemple pour une infection respiratoire, il va falloir boire plusieurs tasses par jour. Donc on met une cuillère à café pour une tasse, un mug, donc à peu près 250 ml ou un bol, et on laisse infuser 10 minutes et on va s'en boire 5-6 par jour. Aussi la quantité en fonction du poids, de la taille, plus on est grand et plus il va falloir qu'on ingère de plantes médicinales. C'est vraiment important, comment dire. Aujourd'hui, on est sur les recommandations, on est sur des dosages qui sont assez faibles. Et en fait, pour avoir une vraie efficacité, il faut donc la qualité, mais aussi le dosage. Le dosage et la fréquence. Essayez de s'en rappeler, sinon on a l'impression que les plantes médicinales, ça marche pas. Donc le romarin. C'est propriété médicinale, ce qu'on appelle cholagogue cholérétique, c'est-à-dire qui stimule la production de la bile par le foie et son excrétion par la vésicule. Ça en fait ce qu'on appelle un draineur du foie. Il est quand même assez doux, il est amer mais pas tant que ça. Donc la saveur amère est un signe aussi de plante du foie. Donc cholagogue cholérétique, il est antioxydant, il a des propriétés circulatoires, microcirculation notamment, Et aussi, donc, c'est une bonne plante pour la mémoire, ce qu'on appelle la cognition en général, donc améliorer, on va dire améliorer la cognition, tout simplement. C'est la plante que j'utilise quasiment tout le temps. Il est tonique aussi. Et donc, j'utilise tout le temps le romarin dans mes tisanes. Donc, quand je fais une formulation, par exemple, je vais quasiment toujours mettre une plante du foie. Et comme le romarin, il est assez bon, il n'est pas trop amer par rapport à d'autres plantes comme l'artichaut, il est beaucoup plus facile à utiliser. Et donc, souvent, on a besoin d'utiliser les plantes du foie pour évacuer les déchets immunitaires ou, par exemple, après une cure de médicaments ou autre. Donc, c'est quand même bien de le mettre. Voilà, et l'olivier. Donc, l'olivier, c'est l'arbre de la longévité. C'est donc, on connaît son huile et ses olives dans le régime méditerranéen. C'est un peu la base, donc c'est un grand protecteur cardiovasculaire. Et du coup, en herboristerie, on utilise ces feuilles. Les feuilles de l'olivier, elles ont des propriétés hypotensives, hypolipidémiantes et hypocholestérolémiantes. Hypolipidémiantes et hypoglycémiantes, voilà.
Ok, sucre et pas graisse.
Voilà, si, tout ça.
Ah oui, d'accord.
Donc, il fait baisser les lipides dans le sang, donc les triglycérides et le cholestérol. Il fait baisser le sucre dans le sang. Mais surtout, sa grande, grande propriété, c'est hypotenseur. Donc, c'est une super plante voilà, pour une personne un peu vieillissante qui commence à avoir sa tension un peu montée. La feuille d'olivier, c'est un peu un compagnon incontournable en herboristerie pour la préservation de l'appareil cardiovasculaire.
Super. Et du coup, tu peux faire des tisanes de feuilles d'olivier?
Oui, donc tu peux faire des tisanes de feuilles d'olivier. Il est un petit peu amer, mais sinon, il n'a pas de saveur particulière. Donc la feuille d'olivier, on va prendre à peu près une cuillère à soupe de feuilles. On va, si possible, les effriter ou les couper pour augmenter les points de contact avec l'eau. Et donc en infusion, 10 minutes, voilà, ça c'est pas mal. Et boire, allez, 2 tasses à 1 litre par jour, selon les nécessités de la personne. Quand on travaille sur l'hypertension artérielle, on fait attention, parce que pour éviter qu'une personne fasse de l'hypotension, donc voilà, surveiller, pour éviter de sortir et de faire une chute malencontreuse par hypotension.
Ok, super. Est-ce que, en bonus, parce qu'on est au mois de juin, tu peux nous parler du millepertuis?
Oui. Le millepertuis, je suis une grande fan du millepertuis.
Moi je suis un peu novice, est-ce que tu peux faire le parallèle entre millepertuis, le mois de juin et ce solstice d'été?
Ouais.
Comme ça, nos auditeuristes ne seront plus novices non plus.
Donc, pour commencer à présenter le millepertuis, à Marseille, il a été en fleur il y a 10-15 jours. Mais si on va un peu plus dans les hauteurs, on pourra encore en trouver là. Autour de Marseille, il commence à sécher. Mais c'est une plante herbacée qui fait des petites fleurs jaunes en étoiles, qu'on pourrait comparer à des petits soleils. Et qui fleurit. On l'appelle en anglais l'herbe de la Saint-Jean. Et effectivement, c'est son moment de cueillette idéal, c'est autour de la Saint-Jean, donc du solstice, donc entre le 21 et le 24 juin. On l'appelle donc millepertuis en provençal. Pertuis, ça veut dire percé. On l'appelle aussi herbe à mille trous. En fait, quand on regarde ses feuilles par transparence à la lumière, on va avoir plein de petits points blancs et plein de petits points noirs. Et ça, c'est des poches à principes actifs, notamment hypericine. Et l'autre, j'ai oublié. Et quand on rencontre le millepertuis, donc c'est en général une plante de prairie. Donc on va voir un peu ces fleurs jaunes qui un peu surnagent au-dessus des herbes. Et donc on s'en approche et quand on commence à cueillir, en gros on va cueillir. Alors il y a plein de gens cueillent des parties différentes du millepertuis et ça, moi c'est ce que je trouve génial en herboristerie ou avec les paysans herboristes ou toutes les autres, tous les cueilleurs, c'est que chacun et chacune va avoir un peu ses pratiques différentes selon sa sensibilité. Et vraiment, je trouve que le millepertuis, c'est l'exemple le plus éloquent de ces différentes pratiques. Donc, j'ai rencontré des gens qui cueillent les boutons non ouverts, des gens qui cueillent juste les fleurs ouvertes non pollinisées, des gens qui cueillent les sommités hautes, dont je fais partie, non sèches, des gens qui cueillent les sommités hautes sèche et non sèche, et puis des gens qui cueillent un peu plus bas, donc la sommité fleurie, mais avec un peu plus de tiges et de feuilles. Donc ça crée une variété un peu de pratiques assez folles. Donc le truc, quand on cueille les fleurs, en fait, quand on les écrase sous les doigts, on va avoir les doigts qui deviennent un peu rouge foncé, et ça, bah, c'est les principes actifs du millepertuis, donc qui nous intéressent notamment. Après, on peut en faire un macérat huileux, on peut les faire sécher, ou alors on peut faire ce qu'on appelle une alcoolature, donc mettre à macérer dans l'alcool. Mais on va dire le plus simple à faire, c'est le macérat huileux. Donc le macérat huileux, on va le mettre dans un bocal en verre. Donc on va mettre nos sommités, les parties de la plante qu'on a récoltées, dans un bocal en verre, et on va recouvrir d'huile et on va laisser 3 semaines, 1 mois, mi-onde, mi-soleil, pour ensuite filtrer. Donc l'huile en fait va devenir d'un rouge exceptionnel et elle va prendre l'odeur du millepertuis.
Et quelle huile on met ? Enfin, est-ce qu'il y a une importance ?
Alors, non, il n'y a pas forcément d'importance. Il y a des gens qui utilisent de l'huile d'olive, d'autres de l'huile de tournesol, d'autres huiles. En fait, l'importance de l'huile qu'on va choisir va être plus en fonction de la destination de notre macérat huileux. Donc, si on veut faire, par exemple, une huile, parce que donc l'huile de millepertuis, ses propriétés, elles sont formidablement anti-inflammatoires, et notamment sur les brûlures, les coups de soleil. Mais aussi sur tout ce qui est névralgie ou douleur ostéo-articulaire, musculaire. Et dans ces cas-là, on va choisir une huile plus ou moins pénétrante. Donc si l'huile d'olive, par exemple, ce sera très bien pour tout ce qui est sur la peau. En plus, l'huile d'olive, elle résiste très bien à la chaleur. Donc si on fait un macérat solaire, c'est un plus. Mais si on veut quelque chose de plus pénétrant, on peut utiliser l'huile de tournesol qui a des propriétés beaucoup plus pénétrantes. Par contre, et elle est moins résistante au soleil.
D'accord.
Donc après, voilà, on peut aussi choisir une huile pas trop pénétrante et résistante. Il y a l'huile d'amande douce. Après, il y a des huiles un peu plus cosmétiques qui peuvent être choisies, comme la noisette ou le noyau d'abricot. Voilà, c'est vraiment, il faut choisir en fonction de la destination. Mais bon, pour un macérat basique, moi, ce que je fais, c'est huile d'olive. Après, effectivement, il y a le coût. C'est que ça commence à faire cher en huile. Dans le temps, c'est quand même une huile qui résiste bien et qui, du coup, on va pouvoir garder son macérat 2 ans, 3 ans maximum sans problème, quoi. Donc voilà, on filtre, on laisse décanter aussi. Alors il y a des gens qui font sécher leur millepertuis, moi je le préfère frais. Mais il y a des gens qui le font préfaner, moi aussi je le préfère frais. Donc dès que je fais ma cueillette, je le mets dans l'huile. Et du coup je le recouvre et je vais le mettre à macérer au soleil. Et du coup au bout de 3 semaines, 1 mois, je le filtre, je le laisse décanter. Donc il y a plein de petites poussières qui vont tomber. Et puis les gouttes d'eau aussi qui étaient dans la plante. Et ensuite, alors, petite anecdote, je me souviens d'une année où j'avais fait un macérat huileux de millepertuis que j'avais mis à filtrer chez moi. À l'époque, j'habitais à la Belle de Mai. Et du coup, j'avais laissé mes fenêtres ouvertes. Et je me souviens d'un jour où, en rentrant dans ma rue, j'avais senti l'odeur de millepertuis dans toute la rue. Ça m'a montré à quel point c'était puissant. Donc voilà, donc là c'est pour le macérat huileux, donc on va pouvoir effectivement l'utiliser sur les brûlures, les coups de soleil, tout ce qui est névralgie, problèmes osteo-articulaires, musculaires, qu'il est anti-inflammatoire, en fait, il va apaiser tout. Il va apaiser un peu toutes ces problématiques. Aussi sur eczéma, psoriasis, enfin tout ce qui brûle. Donc voilà, c'est aussi son côté paradoxal, c'est que le macérat huileux de millepertuis est réputé pour être photosensibilisant. Alors, avis très controversé, j'ai beaucoup discuté avec plein de collègues.
Est-ce que juste tu peux nous expliciter photosensibilisant si jamais on... Voilà, enfin pour que ce soit clair pour toutes les auditrices.
Alors, photosensibilisant, ça veut dire que si on se met du macérat sur la peau, on risque de faire des coups de soleil. Voilà, donc j'avais rencontré en 2015, quand j'ai fait ma première formation, une productrice de plantes médicinales en Ariège qui faisait son macérat huileux avec les fleurs non pollinisées de millepertuis, et du coup elle en mettait en crème solaire sur ses enfants.
Ah oui, elle avait peur de rien.
Elle avait peur de rien, mais ses enfants ont passé leur enfance à ne pas attraper des coups de soleil comme ça. Donc voilà, première histoire rapportée. Et ensuite j'en ai parlé avec quelqu'un qui est plutôt... qui s'occupait des animaux avec les plantes médicinales. Donc lui, ce qu'il m'a parlé, c'est plutôt des chevaux qui mangent dans les prés, qui mangent de l'herbe, et au bout d'un moment, quand le pré commence à être un peu épuisé, ils finissent par manger le millepertuis. Et du coup, il avait remarqué que sur les chevaux qui étaient bicolores, c'était plutôt les parties blanches qui avait une réaction de peau brûlée, que les parties, et pas les parties noires ou foncées. Donc, et il parlait aussi de peut-être le caractère.
Donc, du cheval.
Le caractère du cheval ou de la personne qui consomme le millepertuis. Donc c'est vrai qu'il y a un côté sur le millepertuis, c'est l'herbe de la Saint-Jean, on est très lié au solstice, au soleil. Est-ce qu'il n'y a pas un lien avec ça? Voilà, la question se pose. J'en ai discuté aussi avec une copine herbaliste qui venait du Royaume-Uni et qui avait fait une formation aux États-Unis. Et du coup, elle se demandait si ce n'était pas le stade de cueillette. Mais c'est vrai que quand on fait un macérat huileux avec des fleurs très fraîches ou des fleurs un peu plus sèches, il n'a pas exactement la même couleur. Il est un peu plus orange quand il est fait avec des fleurs sèches. Une fois, j'ai essayé de me mettre du macérat sur les bras pour faire crème solaire, pour partir à la cueillette. Et j'ai pas attrapé de coups de soleil. Je ne sais pas. Alors, après, la question, c'est la prise en interne. La pharmacie dit que c'est uniquement le macérat huileux qui est photosensibilisant et qu'il n'y a pas de problème avec la prise interne. Je pense quand même qu'il y a peut-être quelque chose à chercher avec ça, parce que il y a eu une période où je prenais la plante en tisane dans un mélange, et j'avais l'impression d'attraper des coups de soleil un peu plus importants que d'habitude. Enfin, c'est difficile et c'est pas rendre service à la plante de la catégoriser, mais c'est plus à utiliser avec prudence. Alors, pour finir sur les propriétés médicinales, donc la plante séchée en tisane, c'est un super anti-inflammatoire des voies digestives. Et c'est vraiment exceptionnel pour tout ce qui est brûlure, douleur. Voilà. Et après, ça va être plutôt son alcoolature ou teinture mère. Donc, ça veut dire que c'est la plante qui est macérée dans l'alcool et qu'on a ensuite filtrée et qu'on va consommer en gouttes avec un petit peu d'eau. Donc, qui est très antidépressive et anxiolytique.
Okay.
Et du coup, on peut faire le parallèle avec le fait que ça ramène du soleil dans la vie. Et on va consommer. Alors, au niveau des dosages, c'est très disparate. On peut prendre 10 gouttes par jour et ça peut être suffisant. Et on peut prendre 100 gouttes par jour et que ça peut ne pas être suffisant. Mais en tout cas, sur tout ce qui est dépression saisonnière et passagère, c'est super efficace. Et aussi sur tout ce qui est crise d'angoisse, même en prise ponctuelle. Le millepertuis, on l'appelait autrefois chasse-diable. Et en fait, on faisait des bouquets qu'on suspendait dans les maisons. Et donc, il y a vraiment. Autrefois, on ne l'utilisait pas pour ses propriétés antidépressives. Il n'était pas connu pour ça. Mais on peut. Certainement, il y avait. Peut-être d'instinct, il y avait cette connaissance-là qui en faisait cet usage-là. Il a des propriétés qui sont. Inhibiteur de la recapture de la sérotonine, de la dopamine et de la noradrénaline. Il est anti-inflammatoire, il est antiviral. Qu'est-ce qu'il a d'autre ? Il est. Et attention, prise interne, il est inducteur enzymatique. Et donc, il peut activer l'élimination de certains médicaments, notamment les traitements hormonaux ou les statines. Ça fait qu'en fait le médicament sera plus vite éliminé, donc sera moins efficace, donc on fait attention. Et aussi, du fait de son effet antidépresseur, il peut augmenter les effets d'un antidépresseur et augmenter le risque de syndrome sérotoninergique, donc c'est-à-dire un excès de sérotonine dans le corps qui se traduit par, en gros, une crise avec... des tremblements, des convulsions, des bouffées de chaleur, des angoisses, des choses comme ça. Voilà.
Donc une plante complète, mais à manipuler avec précaution
tout
en
à
fonction
fait.
De nos sensibilités personnelles.
Tout à fait.
Peut-être pour, je ne sais pas si ça boucle la boucle, mais est-ce que le millepertu, par exemple, on peut l'acheter en tant que médicament dans une pharmacie ? Est-ce qu'il fait partie des plantes sous monopole pharmaceutique ?
Oui, tout à fait. Le millepertu est une plante sous monopole pharmaceutique. Donc, si on veut trouver du millepertu séché, ce sera normalement uniquement en pharmacie. donc, sous forme de plantes sèches et sous forme de teinture mère. Toutefois, il existe la législation des compléments alimentaires. Et donc, on peut le trouver sous forme de compléments alimentaires. C'est-à-dire, on va trouver des extraits hydroalcooliques donc à prendre en goutte, on va trouver des gélules. Et donc, en fait, finalement, on trouve du millepertuis partout, quoi.
Ok. Enfin, vu qu'on était sur les plantes de la région marseillaise, etc., et qu'on a parlé de celles qui nous font du bien, est-ce qu'il y en a une dont particulièrement il faudrait faire attention ?
Non, hein. Comment dire, en Provence, on n'a pas énormément de plantes toxiques, ou en tout cas, on ne va pas les cueillir. Il y a toutes les euphorbes qui irritent les voies digestives et qui sont du coup purgatives. Mais bon, je pense que personne n'a l'idée de manger ou de se faire une tisane d'euphorbes. Il y a la globulaire, il y a quelques plantes aussi qui sont des laxatifs stimulants. Mais c'est pareil, c'est pas très cueilli. En tout cas, les plantes qu'on connaît en général, le thym, le romarin, le tilleul, c'est pas des plantes à très risquées, quoi. On va juste faire attention, par exemple, le romarin, si on a des calculs biliaires, ça peut entraîner une crise par le fait que ça peut faire sortir un calcul et qu'il se coince dans le canal qui est entre la vésicule et l'intestin. Donc là, ça fait très très mal. Mais sinon, il n'y a pas de risque. Après, c'est avec les enfants, on fait attention sur les tout petits. Et du coup, c'est vrai que de manière générale, c'est bien de se faire conseiller par quelqu'un qui connaît. qui connaît, qui est formé. C'est pas. Alors, il y a des personnes qui sont autodidactes, qui sont super. Qui ont. Une rigueur intellectuelle qui est parfaite, mais bon, quelqu'un qui connaît juste un peu comme ça ne saura pas, peut-être pas tout, toutes les contre-indications et précautions d'emploi. Donc voilà.
Peut-être pour finir, est-ce que tu peux indiquer aux gens qui nous écoutent comment avoir accès à ces gens qui connaissent et qui sont formés ? Est-ce qu'il y a un réseau particulier ? Toi, par exemple, comment on peut te retrouver pour te demander des conseils ou venir te voir ? Et puis plus largement, à qui on doit s'adresser pour avoir des conseils au-delà des pharmaciens ?
Très récemment, les praticiens en herboristerie, les paysans herboristes, les paysans herboristes, quoi d'autre ? l'Association des herboristes de France, ils ont créé, les écoles d'herboristerie ont créé une carte qui s'appelle... Non, c'est pas ça. Je vais la retrouver.
C'est bien ça, les cartes.
Oui.
Carte de l'herboristerie engagée, voilà.
Ah, mais super.
Donc, c'est la carte de l'herboristerie engagée qui est toute nouvelle. Donc, pour l'instant, il n'y a pas tout le monde qui s'est inscrit dessus. Mais on va, l'idée, c'est que jusqu'à la fin de l'année, tout le monde commence à s'inscrire dessus. Enfin, toutes les personnes qui ont un peu les mêmes valeurs éthiques sur le conseil et la qualité des plantes et leur mode de cueillette s'inscrivent dessus. Et puis qu'on commence vraiment à en faire la promotion d'ici l'année prochaine. Mais du coup, voilà, c'est un peu, en gros, la plupart des acteurs du milieu qui essayent de valoriser cette carte. Donc, sinon, il y a la guilde des praticiens en herboristerie dont je fais partie. Donc là, ça peut aussi être un bon point pour trouver des contacts. Et après, sinon, c'est l'Association des herboristes de France, puisque donc, les herboristes, ça c'est les herboristes de comptoir, donc les personnes qui vendent des plantes aussi. Et sinon, pour les producteurs et productrices de simples, enfin de plantes, c'est plutôt le syndicat des simples. Et après, il y a plein d'autres producteurs et productrices qui travaillent très bien. Et là, c'est un peu plus difficile de les trouver parce qu'ils ne sont pas tous adhérents aux simples. Bon, on peut déjà se baser là-dessus.
Donc ça nous invite à la curiosité des territoires et de ce que les gens y font et comment ils cueillent, etc. quoi.
Oui.
Ok. Toi, est-ce que t'as une petite plante un peu qui t'accompagne dans ta vie et que t'as envie un peu de nous partager pour ses propriétés que l'on trouve en Provence ou ailleurs, mais...
Donc, les plantes dont j'ai parlé, c'est des plantes que j'aime beaucoup, hein, le romarin, le millepertuis, le thym, c'est un peu des petits chouchous, mais sinon j'adore le sureau, la kili millefeuille aussi, ça a été une de mes premières que j'ai rencontrées. Mais sinon, la plante que j'aime le plus, enfin que j'aime le plus, qui m'intrigue le plus, c'est la gentiane. Donc elle n'est pas en Provence, elle est plutôt à la montagne. Donc la gentiane jaune, qui est une plante un peu... Ouais, qui m'a interpellée de par la manière dont il faut l'accueillir, donc avec une grande fourche qui pèse 15 kilos, qu'on appelle fourche du diable. Et puis après, le fait qu'elle soit un peu en montagne, qu'elle aime bien aussi quand même le contact avec les humains, les vaches, des choses comme ça. Du coup, j'ai écrit mon mémoire de DU sur la gentiane. J'étais vraiment passionnée. Parce que je pense que elle a des vertus toniques digestives. Je pense que c'est un peu la réduire réducteur de juste la classer parmi les plantes digestives. Elle a un côté aussi un peu antidépresseur qui est connu. Et en fait, le fait qu'elle soit digestive, elle peut aussi augmenter la capacité d'absorption de nutriments et d'avoir plus de force grâce à ça. Donc, ça pourrait en faire une plante similaire à des grandes plantes comme le ginseng, potentiellement, quoi.
Mmh. Ok.
Et de manière locale ?
De manière locale, c'est le romarin, mon chouchou.
Mais aussi la gentiane par rapport au ginseng.
Ah oui,
ça serait remède local.
Oui, oui, tout à fait. Ouais. Le ginseng qui vient de Chine.
Ouais. Oui, voilà, parce qu'on n'a pas évoqué la circulation des plantes médicinales et du coup, l'empreinte carbone que ça génère et les qualités de production, de conditions de travail des personnes.
Alors le truc de la gentiane, c'est que c'est assez particulier vu qu'elle est ramassée aussi pour faire de l'alcool, hein, de la suze et autres alcools. Et du coup, elle est quand même très très exploitée en France et en Europe. Et du coup, on peut pas se dire qu'on va prendre de la gentiane pour compenser notre bilan carbone par rapport à du ginseng. En plus, elles n'ont pas exactement les mêmes modes d'action, mais en tout cas, la gentiane, on y fait quand même aussi attention.
Ok. Bon, bah super.
Trop bien.
Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou...
Non, merci. Merci pour cette rencontre. C'est trop chouette. Et puis, m'avoir permis de parler à la radio.
Est-ce que tu veux évoquer ton site internet sur lequel on peut te retrouver
ou... Ouais, donc
bah oui, un peu de promo.
Bah oui, donc un peu de promo. Donc j'ai un site internet qui s'appelle Alice M Phyto. Et voilà, vous pouvez me trouver aussi sur Instagram. Je mets plein de photos de plantes un peu tout le temps. et voilà.
Ok, super. Bah merci beaucoup, Alice.
Merci.
Merci, Alice, pour cette rencontre. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'écouter Dicoti depuis maintenant 6 mois. Vous pouvez, comme toujours, nous écrire, comme Alice, à l'adresse dicoti@etik.com, dicoti@etik.com. Et bien sûr, réécouter cette émission et toutes les infos qui vont avec sur le site de Radio Galère, radiogalère.org.
Bon été, en direct de la friche ou par un TGV. À bientôt.
À la mode, savez-vous planter les choux? À la mode de chez nous.
Vous êtes bien sur Dicotylédonde, l'émission qui parle de plantes et de nos liens au végétal.
Yeah. Ah, ce qu'on est bien dans ce jardin, loin des engins. Pas besoin de choux pour être bien, pas besoin de vin pour être chou.
Dit cotylédon, on entend le mot de et cotylédon. Donc ce sont des plantes qui font des graines avec deux cotylédons.
Dit cotylédonde,
une émission d'ethnobotanique fabriquée par Clémence, Nina et leurs complices.
Dernière chose à dire, qui permet de reconnaître les dicotylédones. Les dicotylédones, elles ont des nervures qui sont ramifiées. Les fleurs, on les verra une prochaine fois parce qu'on n'a pas de fleurs pour le moment sur le framboisier.
Tous les 4e mardis du mois sur Radio Galère 88.4.